parole du jour avec le Père Willem.
Changer notre regard, agir au sein de la violence, dans Marc chapitre 11, versets 1 à 12. Tout commence par l'expérience de communion intime de Jésus avec Dieu son Père. Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Au fur et à mesure des rencontres, il donne à d'autres de l'expérimenter. Jésus montre leur valeur aux exclus. Il interpelle ceux qui se croient en ordre. Il les entraîne tous dans un changement de regard radical sur l'être humain, ami ou ennemi, aimé avec ses ombres et ses lumières. Nous suivons pas à pas la manière progressive et pleine de délicatesse dont Jésus rééduque le regard des apôtres et le nôtre par cercles concentriques. Il commence par les plus proches, d'abord au gré des rencontres au bord du lac de Tibériade. Puis le chemin s'élargit progressivement jusqu'à un niveau national pour aller finalement vers les tout autres, les païens. Ce changement de regard nous donne de découvrir le point de vue de l'autre, d'accéder à sa différence et aussi la violence qui nous habite. Il nous appelle à accueillir nos limites et notre faiblesse, non plus comme une condamnation ou une fatalité, mais comme une libération et une chance. Oui, une libération. Pour les disciples, cela change tout. Pourtant, ils sont rapidement envahis par l'inquiétude, car tout le monde ne réagit pas comme eux. Certains résistent et s'opposent. Cela soulève bien des questions. N'est-ce pas utopique? Quelle est la stratégie de Jésus? Comment Dieu s'y prend pour changer le monde? Par ses actes et ses discours, Jésus ramène les disciples à leur responsabilité dans ce processus qui s'étend par contagions successives. Il les invite à oser des gestes concrets et à croire qu'ainsi ils permettent à Dieu d'agir réellement dans leur vie. Jésus prend soin de Pierre et ses amis. Il les invite à s'occuper d'abord et exclusivement de la violence intérieure que les agressions extérieures ne manquent pas de généreux ennuis. C'est pourquoi, quand nous parlons de cette première étape, nous faisons référence à la dimension personnelle du conflit, de la violence et de la non-violence. La guérison de notre regard sur l'être humain y est centrale. Comme les disciples, nos yeux s'ouvrent peu à peu pour voir Jésus et les êtres humains comme Dieu les voit. Mais voir l'homme, c'est aussi sortir de nos rêves d'un paradis où tout le monde serait parfait à nos yeux. Voir l'homme, c'est entrer dans l'altérité. Et c'est la deuxième étape, traverser nos peurs, dans Marc 8, 31. Dans la première étape, les disciples ont reconnu en Jésus le Messie. Ils ont découvert quel type de Messie il est. Dans un deuxième temps, ils découvrent comment il mène à bien sa mission. Tout ce passage est rythmé par les trois annonces de la Passion. Trois vagues qui peu à peu approfondissent la vision de Jésus sur le règne de Dieu. Elle commence juste après la guérison d'un aveugle et se termine par la guérison d'un autre aveugle, comme pour nous rappeler la place centrale du travail sur notre propre aveuglement. Les disciples, comme nous, très souvent, bute sur l'annonce de la résurrection. Mais d'abord sur la souffrance et la mort. Du coup, il ne semble pas entendre l'annonce de la résurrection, pourtant elle aussi communiquée par trois fois. Omnubilé par la souffrance, il redoute d'interroger Jésus là-dessus. Dans la première vague, les disciples vivent une semaine de retraite itinérante avec Jésus. Elle nous conduit au centre de la problématique, le refus de la souffrance. Elle nous donne la clé, ne pas vouloir assurer, contrôler notre vie, mais accepter le lâcher-prise qui permet d'entrer dans la dynamique de Dieu et vivre dans le réel. Dans la seconde vague, les disciples sont confrontés au retour au village, à l'enracinement social. Elle nous plonge dans la vie quotidienne, là où nous sommes invités à vivre ce changement de regard dans les réalités concrètes. Travail impossible si nous ne nous fions qu'aux apparences extérieures. Il s'agit d'oser faire notre pas concret et croire que nous ne sommes pas seuls. Dans la troisième vague, ils approchent du but Jérusalem. Elle est comme un dénouement. Confrontés à la dure réalité qui les attend, les apôtres veulent s'assurer qu'ils ne font pas tout cela pour rien. Ce n'était pas pour ici et maintenant, alors au moins pour après, dans ton royaume. Alors Jésus, avec prévenance et fermeté, les ramène au cœur de leur relation quotidienne et à l'aujourd'hui de leurs décisions. Il les laisse libres de continuer ou non avec lui. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Aussi, quand nous parlons de cette deuxième étape, nous faisons référence à la dimension interpersonnelle du conflit, de la violence et de la non-violence. Dans ces trois vagues, Jésus est en chemin avec ses disciples. Ils marchent, ils évoluent, mais le chemin physique, lui aussi, avance. Il se rapproche de Jérusalem, lieu où Jésus a tant insisté qu'il allait être persécuté et mis à mort. Alors il s'adresse à ceux qui ont accepté de le suivre. Il leur donne de voir au-delà de leurs aveuglements, de vivre au-delà de leur impossible et de goûter cette présence intime que Jésus appelle Abba, Père. Il découvre une nouvelle stabilité intérieure qui leur ouvre de nouveaux possibles. Et voilà que, il y a quelques jours, le pape François s'est exprimé devant les cardinaux. Il a prononcé un sermon abordant en filigrane divorcés, remariés, les exclus, ceux qui sont à la marge hors de l'Église. Et voilà ce qu'il disait dans la basilique Saint-Pierre à tous les cardinaux, dont les 20 nouveaux créés l'autre samedi. Une occasion rare qui explique que cette homélie programmatique est l'une des plus fortes de son pontificat. Voilà ce qu'il écrit. La route de l'Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus, celle de la miséricorde et de l'intégration, et de se retrousser les manches et de ne pas rester regarder passivement la souffrance du monde. C'est ça pour l'Église aujourd'hui, et la route de cette Église est celle de ne condamner personne éternellement. La route de l'Église, c'est justement de sortir de son enceinte pour aller chercher ceux qui sont loin, dans les périphéries essentielles de l'existence. Au fond, François demande aux cardinaux de choisir entre deux voies, l'ouverture ou la fermeture. Et cela est demandé à tout chrétien, même ici à Chartres et dans la région. Choisir entre l'ouverture et la fermeture. Il y a deux logiques de pensée et de foi. La peur de perdre ceux qui sont sauvés et le désir de sauver ceux qui sont perdus. Aujourd'hui aussi, il arrive parfois de nous trouver au croisement de ces deux logiques, celle des docteurs de la loi, c'est-à-dire marginaliser le danger en éloignant les personnes contaminées, et la logique de Dieu qui, avec sa miséricorde, serre dans ses bras, accueille en réintégrant et en transformant le mal en bien, la condamnation en salut, l'exclusion en annonce. Ces deux logiques parcourent toute l'histoire de l'Église, exclure et réintégrer. C'est aujourd'hui que cela se passe.